Chapitre 20. Le frisson des révélations. Forme d'art appliquée pour la beauté des tons. Les chansons qu'elle crée sont le délice des cœurs. De l'artiste même incomprise, murmure-t-on. Mais l'esprit n'y veille à leurs heures. Extrait du chant du recensement de ceux qui écoutent. 90e couplet. Le soleil formait une braise ardente à l'horizon, descendant vers l'oubli, tandis que Shalan et sa petite caravane approchaient de la source de la fumée. Bien que la colonne ait décru, il voyait à présent qu'elle provenait de trois sources différentes qui s'élevaient dans les airs pour se fondre en une seule. Shalan se mit debout dans le chariot cahotant, tandis qu'il gravissait une dernière colline, puis s'arrêtait sur son flanc, quelques mètres trop tôt pour qu'elle puisse distinguer ce qui se trouvait là-bas. Évidemment, ce serait une très mauvaise idée si ces bandits attendaient en aval. Blut descendit de son chariot et s'avança au pas de course. Il n'était pas d'une agilité renversante, mais c'était le meilleur éclaireur dont il disposait. Il s'accroupit, retira son chapeau trop élégant, puis progressa vers le haut de la colline pour jeter un coup d'œil. L'instant d'après, il se redressa sans plus chercher la discrétion. Shalan bondit au bas de son siège et s'approcha précipitamment, accrochant ses jupes sur les branches tordues des crisse-branches ici et là. Elle atteignit le sommet de la colline juste avant Tevlakf. Trois chariots de caravane se consumaient doucement, et les vestiges d'un combat jonchaient le sol. Des flèches à terre, un groupe de cadavres entassés. Le cœur de Shalan bondit lorsqu'elle aperçut des survivants parmi les morts. Quelques silhouettes fatiguées ratissaient les décombres ou déplaçaient les corps. Ils n'étaient pas vêtus comme des bandits, mais comme d'honnêtes membres d'une caravane. Cinq chariots supplémentaires se rassemblaient à l'autre extrémité du camp. Certains étaient noircis, mais tous paraissaient en état de marche, toujours chargés de marchandises. Des hommes et femmes armés soignaient leurs blessures, des gardes. Un groupe de parches effrayés s'occupait des chules. Ces gens avaient été attaqués, mais ils avaient survécu. « Par l'haleine de Kelek !» s'exclama Tevlakf. Il se retourna et fit signe à Blut et à Shalan de revenir en arrière. « Reculez avant qu'ils ne nous voient !»«
Pardon ?» demanda Blut, qui obéit néanmoins. « Mais c'est une autre caravane comme on l'espérait. »«
Oui, et ils n'ont pas besoin de savoir que nous sommes là. Ils voudront peut-être nous parler et ça pourrait nous ralentir. Regardez !»
Il tendit le doigt derrière eux. Sous la lumière déclinante, Shalan distinguait une ombre au sommet d'une colline, non loin derrière eux. Les déserteurs. Elle fit signe à Tevlakf de lui donner sa lunette, ce qu'il fit à contre-cœur. La lentille était fendillée, mais Shalan parvint malgré tout à distinguer correctement le groupe. Cette trentaine d'hommes se composait en effet de soldats, et bien qu'ils ne marchent pas en formation ni ne portent d'uniforme, ils semblaient bien équipés.
« Nous devons descendre pour demander de l'aide à l'autre caravane, » déclara Shalan.
« Non !»
répondit Tevlakf en lui arrachant la lunette des mains.
« Nous devons nous enfuir. Les bandits vont voir ce groupe plus riche mais affaibli et s'attaqueront à lui plutôt qu'à nous.
« Et vous croyez qu'ils ne nous poursuivront pas ensuite ?» demanda Shalan. « Alors que nos traces seront si visibles, vous croyez qu'ils ne vont pas nous rattraper dans les jours qui viennent ?»«
Il devrait y avoir une tempête majeure ce soir, » objecta Tevlakf. « Elle va peut-être couvrir notre piste, emporter les carapaces des plantes que nous écrasons. »
« C'est peu probable, » répliqua Shalan. « Si nous nous allions à cette petite caravane, nous pouvons ajouter nos effectifs réduits aux leurs. Nous pouvons résister, c'est... »
Blut leva soudain une main et se retourna.
« Un bruit !»
Il fit volte-face et s'empara de son gourdin. Une silhouette se tenait non loin de là, masquée par les ombres. Apparemment, la caravane d'en bas possédait son propre éclaireur.
« Vous les avez conduits droit vers nous, n'est-ce pas ?»
demanda une voix féminine.
« Que sont-ils ? Des bandits ?»
Tevlakf leva sa sphère, dévoilant l'éclaireur comme une femme pâle iris de taille moyenne, à la carrure maigre et nerveuse. Elle portait un pantalon et un long manteau qui ressemblait presque à une robe, fermée par une boucle à la taille. Elle arborait un gant brun clair à la sage main et parlait à Letty sans accent.
« Je... » bredouilla Tevlakf. « Je ne suis qu'un humble marchand et... »
ceux qui nous pourchassent sont certainement des bandits, l'interrompit Shallan. Ils nous ont poursuivis toute la journée.
La femme jura et leva sa propre lunette.
Bien équipée, mormonna-t-elle. Des déserteurs, je dirais. Comme si la situation n'était pas assez grave. Yix!
Une deuxième silhouette se leva près de là, vêtue d'habits ternes, couleur de pierre. Shallan sursauta. Comment avait-elle pu ne pas le voir? Il était si près. Il portait une épée à la taille. Un paliris? Non, un étranger, à en juger par ses cheveux dorés. Elle ne savait jamais très bien ce que la couleur de leurs yeux révélait sur leur statut social. Il n'y avait pas d'individus aux yeux clairs dans la région Makabaki, mais ils possédaient des rois, et quasiment tous les habitants d'Iri avaient les yeux jaunes clairs. Il s'approcha en courant, main sur son arme, surveillant Blut et Tag avec une franche hostilité. La femme lui adressa quelques mots dans une langue que Shallan ne connaissait pas. Il hocha la tête, puis se dirigea d'un pas pressé vers la caravane en contrebas. L'éclaireuse le suivit.
« Attendez !» lui lança Shallan. « Je n'ai pas le temps de discuter » aboya-t-elle. « Nous avons deux groupes de bandits à combattre !»«
Deux ?» s'étonna Shallan.
« Vous n'avez pas vaincu celui qui vous a attaqué un peu plus tôt ?»« Nous les avons repoussés !» Mais ils vont bientôt revenir.
La femme hésita sur le flanc de la colline.
Le feu était accidentel, je crois. Ils se servaient de tisons allumés pour nous effrayer. Ils se sont retirés pour nous laisser combattre le feu. Comme ils ne voulaient pas perdre davantage de biens.
Deux groupes, dans ce cas. Des bandits devant et derrière eux. Shallan se surprit à transpirer dans l'air froid, tandis que le soleil disparaissait enfin, en dessous de l'horizon à l'ouest. La femme regardait vers le nord, où son groupe de bandits avait dû se retirer.
« Ouais, ils vont revenir, » affirma-t-elle. « Ils voudront en finir avec nous avant l'arrivée de la tempête de ce soir. »« Je vous offre ma protection, » s'entendit répondre Shallan. « Votre protection, » répéta l'éclaireuse en se retournant vers Shallan, l'air incrédule. « Vous pouvez nous accepter dans votre campement, mes hommes et moi, » poursuivit Shallan. « Je m'assurerai de votre sécurité ce soir. » Ensuite, j'aurai besoin de vos services pour me conduire jusqu'aux plaines brisées.
La femme éclata de rire.
Qui que vous puissiez bien être, vous avez du cran. Vous pouvez vous joindre à notre camp, mais vous allez mourir ici avec nous autres.
Des cris s'élevèrent depuis la caravane. L'instant d'après, une volée de flèches transperça la nuit depuis cette direction pour cribler les chariots et les caravaniers. Hurlements. Des bandits suivirent, émergeant de l'obscurité. Ils étaient beaucoup moins bien équipés que les déserteurs, mais n'avaient pas besoin de l'être mieux. Il restait moins d'une douzaine de gardes à la caravane. La femme jura et dévala la colline en courant. Shallan frémit, regardant ce massacre brutal avec des yeux écarquillés. Puis elle se retourna et se dirigea vers les chariots de Tevlakf. Ce frisson soudain lui était familier. Le grand froid associé au moment de révélation. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ignorait si ça fonctionnerait, mais elle voyait clairement la solution. Comme les traits d'un dessin s'assemblant pour transformer des gribouillis aléatoires en une image complète.
« Tevlakf !» dit-elle. « Emmenez Tag en bas et essayez d'aider ces gens à se battre.
Quoi ?»
s'exclama-t-il. « Non, non, je ne vais pas risquer ma vie pour vos bêtises !»
Elle soutint son regard dans la pénombre et il s'arrêta net. Elle savait qu'elle dégageait une faible lueur. Elle sentait la tempête se déchaîner en elle.
« Faites-le !»
Elle le planta là pour regagner son chariot.
« Blut, orientez ce chariot dans l'autre sens !»
Il se tenait près du chariot avec une sphère, baissant les yeux vers quelque chose qu'il tenait à la main. Une feuille de papier. Blut ne pouvait tout de même pas connaître les glyphes.
« Blut !»
aboya Shallan, en montant dans le chariot.
« Il faut qu'on bouge !» « Tout de suite !»
Il se secoua, puis rangea le papier et monta précipitamment sur le banc à côté d'elle. Il fouetta le chule pour le faire tourner.
« Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? »
demanda-t-il.
« On se dirige vers le sud. »«
Vers les bandits ?»«
Oui. »
Pour une fois, il lui obéit sans se plaindre et cravacha le chule pour le faire accélérer. Comme s'il était impatient d'en finir avec tout ça. Le chariot s'ébranla et trembla tandis qu'il descendait une colline pour en gravir une autre. Une fois parvenus au sommet, ils regardèrent le groupe qui montait vers eux.
Les hommes portaient des torches et des lanternes à sphères, ce qui permit à Shallan de distinguer leurs visages. De sombres expressions sur des hommes sinistres à l'arme dégainée. Leurs plastrons ou leurs gilets en cuir avaient peut-être autrefois comporté des symboles d'allégeance, mais elle voyait l'emplacement où ils avaient été découpés ou arrachés. Les déserteurs la regardaient avec une stupéfaction manifeste. Ils ne s'étaient pas attendus à ce que leur proie vienne à eux. Son arrivée les laissa un moment hébétés. Un moment important. « Il doit y avoir un officier, » songea Shallan, qui se leva sur son siège. « Ce sont des soldats ou, en tout cas, ils l'ont été. Ils doivent obéir à une structure de commandement. » Elle prit une profonde inspiration. Blut leva sa sphère, se tourna vers elle et poussa un grognement surpris.
« Le père des tempêtes soit béni pour votre présence !»
cria Shallan au groupe.
« J'ai désespérément besoin de votre aide !»
Les déserteurs se contentèrent de la regarder fixement.
« Des bandits !»
poursuivit-elle.
« Ils attaquent nos amis dans la caravane, à 2 collines d'ici. C'est un massacre. J'ai dit que j'avais vu des soldats ici, qui se dirigeaient vers les plaines brisées. Personne ne m'a cru. Je vous en supplie, vous devez nous aider !»
Cette fois encore, ils se contentèrent de la regarder fixement. Un peu comme le vison qui s'aventure dans le repaire du palais Chine et qui demande l'heure du repas, songea-t-elle. Enfin, les déserteurs remuèrent, mal à l'aise, et se tournèrent vers un individu au centre du groupe. Grand et barbu, il paraissait avoir les bras trop longs pour son corps.
« Des bandits, vous dites ? »
répliqua-t-il d'une voix dépourvue de toute émotion. Shallan sauta au bas du chariot et se dirigea vers lui, laissant Blut assis en une masse silencieuse. Les déserteurs s'écartèrent d'elle, vêtus d'habits sales et déchirés, avec leurs cheveux grisonnants en désordre et leurs visages qui n'avaient pas vu de rasoir, ni de gants de toilette, depuis une éternité. Cependant, à la lumière de la torche, leurs armes luisaient sans la moindre trace de rouille, et leurs plastrons étaient astiqués au point de refléter leurs visages. La femme qu'elle entrevit dans l'un de ces plastrons avait l'air trop grande, trop majestueuse pour qu'il s'agisse d'elle-même. Au lieu de cheveux emmêlés, elle possédait des boucles rousses soyeuses. Au lieu de haillons de réfugiés, elle arborait une robe tissée de broderies dorées. Elle portait un collier qui n'était pas là l'instant d'avant. Et lorsqu'elle leva la main vers le chef du groupe, ses ongles rongés paraissaient parfaitement manucurés.
« Clarissime !» lui dit l'homme lorsqu'elle s'approcha de lui. « Nous ne sommes pas ce que vous croyez. »«
Non, » répliqua Shallan. « C'est vous qui n'êtes pas ce que vous croyez. »
Ceux qui l'entouraient à la lueur des flammes étudièrent Shallan d'un œil avide, et elle sentit un frisson lui hérisser tous les poils du corps. Droit dans l'antre du prédateur, en effet. Et cependant, la tempête en elle la poussait à l'action et lui conférait une plus grande confiance. Le chef ouvrit la bouche comme pour donner un ordre. Shallan l'interrompit.
« Quel est votre nom ?»«
On m'appelle Vatat, »
répondit-il en se tournant vers ses alliés. « C'est un nom vorin, comme celui de Shallan.
Et je déciderai ce que je ferai de vous plus tard. Gaz, prends celle-ci et... »«
Qu'êtes-vous prêt à faire, Vatat ?»
demanda Shallan d'une voix forte,
pour effacer le passé.
Il se retourna vers elle, le visage à moitié éclairé par la torche principale.
« Si vous aviez le choix, préfériez-vous protéger plutôt que tuer ?»
poursuivit-elle.
« Secourir au lieu de voler, si vous pouviez tout recommencer. De braves gens sont en train de mourir tandis que nous parlons ici. Vous pouvez empêcher ça. »
Les yeux sombres de cet homme semblaient morts.
« Nous ne pouvons pas changer le passé. »
« Mais je peux changer votre avenir. »
« Nous sommes des hommes recherchés. »
« Oui, je suis venu ici à votre recherche, en espérant trouver des hommes. Une chance vous est offerte de redevenir soldat. Suivez-moi, je m'assurerai que vous ayez une nouvelle vie. Elle commence par sauver au lieu de tuer. »
Vatat eut un ricanement de dérision. Son visage paraissait incomplet dans le noir, à peine esquissé, comme un croquis.
« Des clarissimes nous ont trahis par le passé. »
« Écoutez, » lui dit Shallan, « écoutez ces hurlements. »
Des bruits pitoyables s'échappèrent de derrière Shallan pour venir les atteindre. Des appels à l'aide, des membres de la caravane, hommes et femmes, en train de mourir. Des bruits obsédants. Bien qu'elle les ait même désignés,
Shallan était surprise de découvrir à quel point les bruits portaient, à quel point ils ressemblaient à des appels à l'aide.
Accordez-vous une autre chance,
ajouta-t-elle tout bas.
Si vous revenez avec moi, je m'assurerai que vos crimes soient effacés. Je vous le promets, au nom de tout ce que je possède, au nom du Tout-Puissant lui-même. Vous pouvez tout recommencer, en tant que héros.
Vatat soutint son regard. Cet homme était de pierre. Elle vit, avec un découragement croissant, qu'il ne changeait pas d'avis. La tempête qui faisait rage en elle commença à se dissiper, et ses peurs à reprendre le dessus. Qu'était-elle en train de faire?
C'était de la folie.
Vatat détourna de nouveau le regard, et elle comprit qu'elle l'avait perdu. Il cria aux autres de la capturer. Personne ne bougea. Shallan s'était concentré uniquement sur lui, pas sur la vingtaine d'hommes qui s'étaient approchés, levant bien haut leurs torches. Il la regardait avec un visage franc, où il ne lisait quasiment plus trace de l'avidité d'un peu plus tôt. Elle vit à la place des yeux écarquillés, brillants de nostalgie, qui réagissaient aux hurlements lointains. Des hommes tâtaient leurs uniformes là où s'étaient trouvés leurs insignes. D'autres baissaient les yeux vers leurs lances et leurs haches, les armes de leur service peut-être pas si lointains.
« Bande de crétins! Vous y réfléchissez vraiment ?»
leur lança Vatat. Un homme, un individu de petite taille au visage marqué de cicatrices avec un bandeau sur l'œil, hocha la tête.
« Je ne serai pas contre un nouveau départ, »
marmonna-t-il.
« Bourrasque, ce que ce serait agréable. Un jour, j'ai sauvé la vie d'une femme, »
dit un autre, un homme grand au crâne dégarni qui devait avoir une bonne quarantaine.
« Je me suis senti comme un héros pendant des semaines. On buvait à ma santé dans les tavernes. Damnation ! On est en train de mourir ici. Nous sommes partis pour échapper à leur oppression, »
hurla Vatat.
« Et qu'avons-nous fait de notre liberté, Vatat ?»
demanda un homme à l'arrière du groupe. Dans le silence qui suivit, Shallan n'entendit plus que les appels à l'aide.
« Par les foudres, moi j'y vais !»
s'exclama l'homme au bandeau, qui remonta la colline au petit trot. D'autres s'éloignèrent pour le suivre. Shallan se retourna joignant les mains devant elle, tandis que le groupe presque entier s'éloignait au pas de course. Blut se mit debout dans son chariot, son visage stupéfait, éclairé par la lumière des torches de passage. Puis il poussa un cri de victoire, sauta à terre et leva bien haut son gourdin pour rejoindre les déserteurs qui chargeaient au combat. Shallan se retrouva seul avec Vatat et deux autres hommes. Il semblait sidéré par ce qui venait de se passer. Vatat croisa les bras et soupira bruyamment.
Bande d'idiots, tous autant qu'ils sont.
Il n'y a rien d'idiot à vouloir devenir de meilleures personnes, répondit Shallan.
Il ricana et la toisa de la tête aux pieds.
Elle éprouva aussitôt une bouffée d'effroi. Quelques instants plus tôt, cet homme était prêt à la dévaliser et sans doute pire encore.
Il ne fit pas mine de s'avancer vers elle, bien que son visage paraisse encore plus menaçant à présent que la plupart des torches avaient disparu.
« Qui êtes-vous »
lança-t-il.
« Shallan Davar. »«
Eh bien, clarissime Davar, » reprit-il. « J'espère pour vous que vous saurez tenir parole. Venez les gars, allons voir si nous arrivons à garder ces crétins en vie. »
Il s'éloigna avec les autres hommes restés en arrière pour gravir la colline en direction des combats. Shallan resta seul dans la nuit, exhalant doucement. Aucune flamme ne s'échappa. Elle l'avait entièrement utilisée. Ses pieds lui faisaient moins mal qu'avant, mais elle se sentait épuisée, vidée comme une outre percée. Elle se dirigea vers le chariot et s'y affala, puis s'assit enfin par terre. La tête renversée en arrière, elle regarda le ciel. Quelques sprènes d'épuisement apparurent autour d'elle, petits tourbillons de poussière dans l'air. Salas, la première lune, dessinait un disque violet au cœur d'un amas d'étoiles blanches et vides. Les cris et hurlements des combats se poursuivaient. Les déserteurs allaient-ils suffire? Elle ignorait combien il y avait de bandits. Elle serait inutile là-bas et ne parviendrait qu'à les gêner. Elle ferma très fort les yeux, puis monta sur le banc et sortit son carnet de croquis. Avec les bruits de lutte et d'agonie parvenant à ses oreilles, elle traça les glyphes d'une prière d'espoir.
« Ils ont écouté, » déclara Motif derrière elle. « Tu les as changés. »«
Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, »
dit-elle. « Ah, tu es douée pour les mensonges. »
« Non,
Enfin, c'était une façon de parler. Ça me paraît inconcevable qu'ils m'aient bel et bien écouté. Des criminels endurcis comme eux.
Tu es mensonge et vérité, déclara Motif tout bas. Ils transforment.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'était difficile de dessiner à la seule lueur de sa lasse, mais elle faisait de son mieux.
Tu as parlé d'un flux tout à l'heure, répondit Motif. Le pouvoir de la lumière, qui permet de tisser la flamme. Mais tu possèdes autre chose, le pouvoir de transformation.
La spiricantation? Demanda Chalan. Je n'ai spiricanté personne.
Et pourtant, tu les as transformés. Et pourtant.
Chalan termina sa prière, puis l'attendit devant elle, et remarqua alors qu'une page précédente avait été arrachée du carnet. Qui avait donc fait ça? Elle ne pouvait pas brûler la prière, mais elle ne pensait pas que le Tout-Puissant y verrait d'objection. Elle l'appuya contre sa poitrine et ferma les yeux, attendant que les cris se taisent en contrebas.